Bonsoir, nous sommes dans la deuxième partie de notre émission Les mots migrateurs. Et ce soir, eh bien, un invité exceptionnel, voilà, François-Xavier Freland, grand reporter sous le ciel, de tous les ciels, je crois, du globe, ou presque. Et il vient avec un livre qui vient de sortir en kiosque, si je puis dire, « Mali, au-delà du djihad », paru aux éditions Anna Moza. Bonsoir, François-Xavier.
Bonsoir à vous, merci.
On est super content de t'avoir ici sur Radio RGB. L'habitude fait que pour nos auditeurs, on commence d'abord par essayer de un peu mieux connaître notre invité. Alors bon, on n'est pas obligé de remonter au calendrier grec, mais avant d'être grand reporter, tu étais quoi et voilà, tu viens d'où? On se fasse une petite idée du personnage.
Alors, c'est toujours compliqué, évidemment, de parler de soi. plus facile de parler des autres quand on est journaliste. Ça, c'est une banalité, mais c'est vrai.
Sûrement.
Donc, je suis breton d'origine. Je suis né à Vannes, qui est une très jolie ville portuaire dans le Morbihan, 56. C'est sur mon passeport. j'ai pas vraiment vécu. Mes grands-parents vivaient là-bas. J'ai de très beaux souvenirs de Noël passés là-bas. Donc, c'est une ville qui ouvre sur la mer. Donc, déjà, ça veut tout dire. C'est une ville protégé, très 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 en fait confortable, très très douillette en fait. Et puis j'ai vécu après à Nantes, qui est quand même la ville de Jules Verne, donc ça aussi ça a pu influencer mon goût du grand large. Et puis toute cette région est une région de grands navigateurs, hein, tous ceux qui ont gagné les principales courses de voile depuis les années 70 à 80. Moi, mes grands-parents connaissaient Éric Tabarly, tous ces gens-là qui peuvent peut-être pas parler à tous vos auditeurs, mais enfin qui étaient quand même des grands champions de bateaux et de voile. Donc j'ai un peu grandi dans cette ambiance, et puis aussi dans la réalité de l'histoire française. Nantes, ce sont des villes très touchées par l'histoire, l'histoire de la Bretagne, l'histoire de la Révolution, la Vendée juste à côté,
l'histoire
de l'esclavage évidemment, j'allais le dire. En plus cette histoire m'a rattrapé puisque j'étais lié à une grande tante qui était une institutrice française qui avait vécu dans les colonies, c'est comme ça qu'on disait autrefois à l'époque coloniale, donc dans les années 30, dans les années 20-30 au Sénégal et au Mali, et j'allais chez elle en vacances. Elle avait une maison près de Nantes, à Sucé-sur-Erdre exactement, et
très
là-bas
joli, très, joli,
très joli coin, ouais. Et il y avait des grands mâles, il y avait des photos, il y avait des statues, et c'est elle qui m'a donné l'envie d'Afrique en fait, parce que vraiment c'était une vraie passionnée d'Afrique, avec un vrai amour pour ce continent. Elle avait beaucoup œuvré pour les femmes là-bas et elle le transmettait en fait. C'était un petit bout de femme. Moi, elle est décédée il y a déjà 20 ans, elle avait 95 ans, on l'appelait momie tellement elle était vieille pour nous. Mais elle avait en elle une histoire tellement incroyable, et j'en ai fait un livre qui s'appelle d'ailleurs L'Africaine Blanche, qui est un de mes premiers bouquins. Ouais.
On va en parler chez Autrement, l'édition.
Exactement.
Scolarité classique.
Ouais, pas très bonne. Hein. Je suis pas un très bon élève en fait. Ouais. Je suis pas un très très bon élève. J'ai jamais aimé l'école en fait.
Un grand lecteur déjà, un petit
peu. Ouais, alors gros lecteur, j'ai eu la chance, c'est ce qui m'a sauvé, sinon je crois que je serais mal tourné. J'ai toujours beaucoup lu. J'avais une grand-mère très littéraire qui écrivait des bouquins qu'elle n'a pas toujours publiés, mais qui écrivait beaucoup et qui m'a donné cette envie de lire.
Le virus est passé.
Ouais, mon père aussi nous mettait des bouquins dans les mains, Saint-Exupéry, des gens comme ça. Souvent des livres liés à l'aventure d'ailleurs, liés aux aventuriers. Ouais. Donc ça aussi, ça a beaucoup influencé évidemment ma vie. Mais non, l'école, je détestais en fait. Je déteste encore en fait. Dès que je passe devant une école, j'ai une espèce d'allergie. Je n'y arrive pas. Et pourtant, je sais que c'est important. Et je trouve que le modèle français, bien qu'il soit critiqué et critiquable, joue encore son jeu avec beaucoup de courage. Donc je rends hommage d'ailleurs à l'éducation dans mon livre sur le Mali, qui est vraiment central en fait dans le développement des pays. Donc moi je suis un petit cas particulier, même s'il y en a beaucoup de cas particuliers, mais en tout cas l'école est un fondement de tout en fait, est à la base de tout.
Alors comment le très bon élève entre guillemets passe à un moment donné je crois au métier de photographe pour commencer?
Ouais, c'est vrai. Alors ça, c'est vraiment le gros hasard.
T'as dû, comme moi, t'as dû passer par la case armée en plus, toi.
Là, alors non, non, finalement, non, même pas comme toi. Je me suis fait exempter. Alors ça, c'est drôle parce que dans mon livre, j'ai quand même été embedded, comme on dit, intégré dans un convoi de l'armée française au Mali.
Absolument.
Et je me suis retrouvé avec des soldats pendant 10 jours à vivre leur quotidien dans des dans des tanks, dans des je sais plus comment on les appelle, les blindés là. Et c'était la première fois que je vivais ça. Et les types, ils avaient l'impression que j'avais fait ça toute ma vie. Non, pas du tout. Et ils me disaient, alors toi, t'as fait quelle armée? Et j'étais très embêté. Puis à un moment, je leur ai dit, bah, j'ai eu des petits problèmes. J'ai été exempté. Mais en fait, c'était malheureux pour eux, mais c'était volontaire. J'avais pas du tout envie de faire l'armée à l'époque. Et j'ai eu de la chance. C'était quasiment la fin de l'obligation conscription, c'est comme ça qu'on disait. Non et donc j'ai trouvé un subterfuge pour l'éviter. Et je suis parti en Amérique latine à la place. Et j'ai fait un an de voyage en Amérique latine. J'ai travaillé beaucoup avant. Je me suis payé mon voyage. Là-bas, j'ai travaillé sur place. Et au lieu de faire l'armée, j'ai fait un voyage en Amérique latine.
Mais l'Amérique latine, c'est grand. T'étais dans quel pays?
J'étais partout. J'ai traversé le continent, en fait. Okay. J'avais 20 ans et j'ai fait l'Argentine de la Tierra del Fuego, de la Patagonie jusqu'au Brésil, jusqu'à la Colombie. Colombie-Brésil. J'ai tout remonté en stop, en train, en bus, en camion. Et le voyage du Che Guevara. Je me suis rendu compte après que j'avais fait le voyage du Che Guevara. Je savais même pas à l'époque, j'aimais bien le Che comme tout le monde, mais j'avais pas vu son voyage, et quand j'ai découvert son voyage, j'ai compris que j'avais fait exactement le même, donc ça m'a fait tout bizarre. Et donc après ce voyage en Amérique latine, je me suis retrouvé en Espagne avec deux valises, parce que je savais pas quoi faire en France. J'étais un mauvais élève, j'ai fait de grandes études, j'avais fait un truc d'histoire, un petit peu de journalisme, une école de journalisme, mais bon, je rentrais pas du tout dans la vie active, j'avais pas ma place. Donc je me suis dit, je vais aller en Espagne, je vais parler espagnol, peut-être donner des cours de français, on va débrouiller quoi.
Bien espagnol.
Hablo bastante bien. Et donc je suis parti. À l'époque, je me souviens, ça me faisait marrer, mais il y avait une chanson de Linda de Souza qui est une chanteuse portugaise qui parlait d'émigrer avec deux valises. C'était ça en fait. Mais évidemment pas dans les mêmes contextes qu'elle, sans doute avec peut-être un petit peu plus de moyens. Et je suis arrivé à Madrid et je savais pas quoi faire. Donc j'étais serveur, j'ai fait plein de trucs et tout. Donc prof de français, ça a été une horreur, mais prof de français. Mais
pour quelqu'un qui aime pas l'école, c'est fort.
Oui, sauf que je donnais des cours à des ingénieurs d'Alstom en banlieue madrilène. Je prenais le bus le matin très tôt, je faisais une heure et j'allais retrouver ces gens, et qui étaient très sympas. Mais je leur faisais écouter des chansons de Léo Ferré, de Serge Gainsbourg, pour apprendre le français, ce qui n'était pas du tout adapté à leur vocabulaire économique, financier qu'ils voulaient. Voilà. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé photographe dans un studio de mode et de production. Et là, c'est extraordinaire parce que moi, j'ai une grande passion, j'ai deux grandes passions, le voyage, et puis j'aime beaucoup aussi la beauté des femmes. Et dans ces studios de mode et de production, il y avait. C'était incroyable parce qu'en plus, j'ai vu des stars espagnoles que je connaissais un petit peu avec le cinéma, et je me suis retrouvé avec Penélope Cruz. Elle avait 20 ans, elle avait juste mon âge, et je voyais cette beauté là, parce qu'on faisait, je me souviens, c'était les revues de Vogue. Alors c'était les 100 ans de Vogue, et on avait Almodovar, on avait toutes ces stars qui venaient faire les photos dans ce studio, qui était le seul gros studio à l'époque de mode et de production.
Tu l'as un petit peu dit déjà, mais il faut quand même une sacrée motivation pour partir à 18 ans faire toute l'Amérique du Sud.
Ouais, 20 ans, ouais.
C'était quoi?
Ouais, je crois que moi j'ai, alors il y a une autre chose qui a évidemment influé ma vie, c'est que j'ai perdu mon père très tôt, à 15 ans. Ouais. Et quand on perd un parent jeune, je pense que on a des envies de réflexion sur soi-même, de quête identitaire. Voilà. Donc j'ai eu une quête identitaire, savoir qui j'étais, ce que je voulais faire, et j'avais besoin de me poser et de prendre le temps de me poser toutes ces questions un peu métaphysiques, spirituelles.
Ouais, c'est un peu une mise à l'épreuve en même temps, quoi.
Oui, c'était exactement, parce qu'en fait mon père est décédé d'un cancer, ce qui est une maladie qui touche beaucoup de gens aujourd'hui, et j'ai eu très peur, et j'en ai encore très peur, d'avoir la même maladie en fait. Et j'ai toujours eu l'impression que c'était aussi une maladie de la peur. Et donc j'ai voulu confronter ces peurs, et pour moi j'étais quelqu'un de très peureux, comme le sont les Français en général. On est des gens très peureux parce qu'on est très douillet, on est trop habitué à une espèce de confort, on a tout, on se plaint en permanence, etc. Et il faut braver ses peurs. Et là, il y en a un autre qui m'a beaucoup influencé, c'est Jacques Brel. Jacques Brel, il dit toujours, faut pas dire, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais écrire un livre. Non, faut faire les choses. Et je prends son accent en plus. J'ai fait les choses.
L'accent belge. Ouais, tout à fait. Alors, pour nos auditeurs, je sais pas comment décrire notre invité. De façon sommaire, je sais pas comment dire, c'est une boule d'énergie d'abord, il est incroyable, il vit à 250 à l'heure, ça se sent, ça se voit, ça s'entend sûrement. Et c'était justement ma question, comment tu fais pour être tout le temps à 250 à l'heure?
Je bois du café.
On est allé chercher un café avant parce qu'il revient de Los Angeles. Il y a le décalage horaire en plus.
Là, j'ai traversé les États-Unis quand même. Ça, c'est incroyable. C'est un rêve d'enfant encore. J'ai jamais été aux États-Unis de ma vie. La première fois que je vais aux États-Unis, je me tape New York, Boston et je traverse Est-Ouest en une semaine. Donc, ça fait 10 jours. J'ai fait toute l'Amérique. Là, c'est trop. Là, c'était n'importe quoi. Mais c'était une vraie fuite, là. Pour le coup, c'était un désir de faire de la route. Et on a loué une voiture avec une copine et on a traversé ce continent comme dans les films. On a dormi dans les motels. On n'a jamais galéré. Les Américains sont extrêmement gentils, qu'on arrête de les prendre pour des cons. Ce sont des gens extrêmement gentils, extrêmement aimables. Ils vous aident pour la moindre chose. Vous avez un pneu crevé, ils vous le changent. Ils vous demandent même pas de le payer. Donc voilà, c'est ça les États-Unis aussi. Qu'on arrête les Français d'être toujours en train de nous moquer de nous d'eux alors qu'on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Donc c'était bien que j'y aille, que je vois moi enfin à quoi ressemblaient ces Ostrogoths. Et je les ai trouvés vraiment sympas.
Il y a un autre petit pointillé qu'on pourrait mettre comme ça derrière le dessin. Si j'avais dessiné, ce serait top. On aurait un personnage gesticulant dans tous les sens. On pourrait mettre trois pointillés pour dire que pratiquement tout le temps, tu es accompagné d'un élément féminin.
Oui, alors ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. ma vie ne peut pas exister sans les femmes. Mes meilleures amies sont des femmes. Mes copines, évidemment, sont des femmes. j'ai du mal à me... Bon, après, j'ai une vie de nomade. J'ai eu du mal à faire quelque chose de plus long que quelques années, on va dire. Mmh. J'ai pas d'enfant. Je pourrais en avoir demain, peut-être. Mais pour moi, c'est lié aussi à cette grand-mère, à ma mère, à des femmes qui ont compté dans ma jeunesse, évidemment. Et je trouve que la femme est l'avenir de l'homme, tout simplement. Je viens de le rappeler tous les jours. Je trouve que les femmes ont beaucoup à nous apprendre, nous les hommes. On est très bavard, je suis très bavard, et que souvent, on devrait un peu plus les écouter. Et je trouve qu'on est encore dans un monde trop macho, pas qu'en France, partout dans le monde, on le voit, les guerres, tout ça, c'est quand même lié à cette virilité, et c'est déplorable.
Je propose qu'on fasse une transition pour rentrer en fait un peu dans ce livre Mali au-delà du djihad, paru aux éditions Anna Moza. Peut-être que tu pourrais nous lire un petit peu de cette histoire, le début je crois, et puis ensuite on fera une pause musicale et on reprendra notre discussion.
Avec plaisir. Il y a peut-être même la citation d'Amadou Mpateba, si je peux la lire, qui est importante.
Pour préciser qui est Amadou
Mpateba. Amadou Mpateba, c'est un grand intellectuel malien, philosophe, qui a vécu, je crois, jusqu'à la fin des années 80, qui est vraiment un intellectuel des indépendances. C'est quelqu'un qui a été formé à l'école française, mais qui fait partie de ces auteurs qui ont marqué le début de la belle période post-française en Afrique. En Mpateba, j'ai choisi cette citation qui, peut-être en dit long sur le livre, je la cite. « Dans son essence, la foi est une. Quelle que soit la religion qu'il exprime, la foi est l'essence de la religion. » Atmosphère peuplée de trois catégories d'hommes, la masse crédule, les prédicateurs aveuglés par les luttes de clochers, enfin des initiés qui ont trouvé Dieu et l'adorent en vérité en silence. Amadou Mpateba, écrivain malien. Voilà.
Début de l'histoire.
Début de l'histoire, voilà. Amadou Mpateba aussi, il faut rappeler que c'est un ancien... c'est un Dogon. C'est quelqu'un qui vient du pays Dogon, qui a été très influencé par toute une culture malienne profonde. Alors donc, je vais vous lire le préambule de mon livre, « Mali au-delà du djihad ». C'est d'abord un petit point qui se fond dans l'ocre de la dune. Un point qui devient une silhouette filant droit devant. On dirait la séquence d'un film de Sergio Leone. Il manque juste quelques notes d'harmonica. C'est un homme avec un turban sur la tête. Il marche avec une certaine grâce en battant un bras de droite à gauche, comme pour garder son équilibre. D'où vient-il? Depuis combien de temps marche-t-il? Le soleil se couche déjà. J'entends au loin comme un murmure en écho le muezzin de la mosquée de Djéné. Nous sommes lundi, c'est le jour du grand marché. Des charrettes tirées par des ânes quittent la ville dans la poussière vers le désert en face. Devant moi, l'homme n'est plus qu'à 500 mètres. Soudain, j'entends quelque chose, un grésillement. Je discerne mal encore. L'homme semble tenir un objet dans sa main, plaqué contre l'oreille. Il s'agit en fait d'un petit transistor. D'un seul coup, cet homme, comme venu d'un autre temps, devient contemporain. Il écoute une mélodie rythmée avec des chants de femmes et des guitares électriques. Il passe à quelques mètres de moi. C'est un jeune garçon très fin avec un chèche bleu. Il se tourne légèrement, me sourit. « Salam alaikum », me dit-il, avant de poursuivre sa route. Deux mondes se croisent. Qui est-il ? Où va-t-il ? Dans quelques minutes, ses pas, sur le sable, auront disparu avec le vent.
Waouh, début du livre 2. François-Xavier Frelon, on va quand même dire que c'est paru aux éditions Anna Moza, et il vient de sortir, je dirais même, il a été livré ce matin à la radio, donc il ne peut pas être plus frais. Pause musicale et on continue notre interview dans quelques instants. Retour au studio, c'est dur de quitter une musique comme ça. Nous sommes dans l'émission Les mots migrateurs en compagnie de François-Xavier Frelon, auteur mais aussi journaliste grand reporter. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Mali au-delà du djihad qui vient de sortir aux éditions Anna Moza. T'avais envie de parler de l'ambiance de cette
ouais. Alors déjà, je voudrais rendre hommage, il s'appelle Balaké Sissoko et Vincent Segal, je ne suis pas sûr qu'on les ait donnés. Et ça, c'est Passo Quattro, le petit morceau qu'on vient d'écouter. Et c'est un de leurs derniers morceaux, dans leur dernier album. Mmh. Et c'est très beau, c'est très mélancolique. Et en fait, quand on regarde la vidéo sur YouTube, j'invite d'ailleurs aux auditeurs à aller voir, on circule sur une pinasse, hein, ce qu'on appelle une pinasse là-bas, c'est une pirogue. Et on longe les rives du Niger. Et en fait, c'est comme au cinéma, quoi. On est dans la pinasse et on voit des petites séquences de vie qui passent le long de la rive. Alors, c'est les femmes qui vont laver le linge, c'est les enfants qui jouent, c'est les hommes qui creusent pour prendre du sable, etc. Et ce sont des scènes tellement vivantes, tellement maliennes et tellement poétiques, en fait. C'est un peu des scènes presque d'une autre époque, parfois. Mmh. Et le Niger, le fleuve Niger qui traverse plusieurs pays, est vraiment, personnellement, je trouve, pour avoir pas mal voyagé, un des plus beaux fleuves du monde, en fait. Parce que c'est un fleuve avec une espèce de
majesté.
De majesté, exactement. Et, et une vie encore autour du fleuve, comme il n'y en a plus aujourd'hui, autour des fleuves. Et ça, c'est très prenant.
Alors, il faut qu'on rentre un peu dans ce livre. Je ne sais pas comment faire, parce qu'il y a beaucoup de choses dans cet ouvrage. Peut-être d'abord donner un cadre général. Ouais. Il correspond à une période de plusieurs allers-retours dans le pays, une partie de ta vie, entre 2002 et 2017. Voilà, ça, c'est pour situer le cadre. Mmh. Là, c'est pour nos amis auditeurs qui sont un peu fâchés, comme je pourrais l'être d'ailleurs avec la carte africaine. Mm-hmm. Le Mali, c'est grosso modo à l'ouest, au centre de l'Afrique.
Ouais, à l'ouest, au sud du Sahara aussi, il faut dire ça. Enfin, dans le Sahara.
Il n'y a pas d'accès du Mali avec la mer. Tout autour, il y a des pays.
Voilà.
Effectivement, au nord, on a l'Algérie.
Ouais, entre autres.
À l'est, le Niger, à l'ouest, la Mauritanie, et puis en bas, plusieurs pays qui vont faire la barrière avec la mer, la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Je ne me suis pas trompé.
Oui, il y a le Sénégal aussi, quand même, important. Parce que le Sénégal, c'est presque le Mali, en fait. C'est deux pays qu'on failli être fédérés. Ils touchent, bien sûr. D'accord. Il y a une frontière en commun, et puis ils ont surtout failli être fédérés à l'époque de Senghor et de Keïta, Modibo Keïta. Ils ont failli faire qu'un seul pays.
Voilà. Du coup, j'ai envie de dire, ce livre, c'est la présence à la fois d'un homme qui vit au Mali. Ça, c'est sa première casquette, parce qu'en fait, il y a beaucoup de pages dans ton livre où c'est toi qui parles, avec beaucoup d'émotion, comme on vient de l'entendre tout à l'heure. C'est souvent très joliment dit.
C'est gentil. Merci.
Et de l'autre côté, il y a bien sûr le grand reporter qui remplit ses missions, à savoir prendre le pouls de ce pays, à la fois sur, bien sûr, les aspects politiques, et puis, petit à petit, la montée progressive. Au départ, d'ailleurs, on ne parle même pas de djihadisme. C'est la montée progressive de choses qui ne vont pas très bien, plutôt au nord du pays. Voilà, je crois qu'on a résumé l'essentiel. Maintenant, comment attaquer ça? J'ai envie de tout de suite te dire, au début du bouquin, tu parles des retournés. Et t'en parles très bien, d'ailleurs. C'est qui, ces gens-là?
Alors, les retournés... Donc là, c'est l'époque où je suis correspondant pour France 24, qui vient d'une nouvelle chaîne de télé, à l'époque, toute bleue, et qui a été lancée par Chirac et reprise par Sarkozy, et qui est un peu donc la voix de la France à l'étranger, faut quand même le dire un petit peu. Et donc, on me demande des reportages à l'époque, donc 2007, sur l'immigration clandestine. Donc, il y a que ça qui intéresse. En gros, moi, je peux parler... Je peux essayer de parler d'autre chose, de la culture, on s'en fout un peu, mais parle-nous des migrants. Et donc, je fais les trois quarts de mes reportages autour de ça, et je me trouve essayer de comprendre qui sont ces jeunes qui partent, qui sont ces jeunes qui reviennent, et ce qu'on appelle les retournés. Donc, c'est des garçons, parfois de 18 ans, 20 ans, qui viennent du Cameroun, qui ne sont pas tous du Mali, qui viennent pour certains du Cameroun, du Sénégal, et qui ont tous transité par le désert, qui ont parfois réussi à franchir la Méditerranée, qui ont quasiment réussi leur pari, qui sont arrivés en Espagne. À l'époque, on traversait beaucoup par l'Espagne. Et puis, pas de chance, un contrôle identitaire, et hop, ils sont arrêtés. Et puis, ce sont des Noirs, ce ne sont pas des Maliens ou des Sénégalais, ce sont des Négros, comme on dit en Espagne. Et on leur dit, écoute, nous, on va te remettre dans un avion. Comme en général, ils ont jeté leurs papiers à l'époque, je parle de 2007, il n'y avait pas encore tous ces passeports biométriques, il n'y avait pas forcément toutes les traces. Donc, on les mettait dans un avion et on leur disait, on vous ramène en Afrique, quelle que soit la destination. Et ça a été le cas. Ça a été le cas de plusieurs jeunes que j'ai trouvés, qui étaient camerounais, et qui me disaient, voilà, François, tu comprends, moi, je suis ici, là, au Mali, à Bamako, mais j'ai rien à faire avec ce pays. Je connais pas ce pays. J'ai jamais vécu ici. Et je veux pas retourner au Cameroun non plus en même temps, parce que là-bas, ça serait la honte. Si je reviens, on m'a donné de l'argent, on m'a prêté pour partir, pour me payer le voyage au Sahara, etc. Donc, j'ai été confronté à la difficile réalité de ces gens qui quand même, comme souvent, gardaient espoir. Chaque fois, ils me disaient, je repartirai, de toute façon, rien m'empêchera d'aller vivre où je veux, je referai le voyage, alors qu'ils avaient déjà vécu des trucs absolument terrifiants. Enfin, les trois quarts, ils ont vu les gens tomber du camion, ils ont vu les gens mourir. Voilà, c'est ça leur réalité. C'est des vrais aventuriers, c'est eux les aventuriers, c'est pas moi. Moi, je suis ridicule à côté. D'ailleurs, je me trouvais souvent très ridicule à côté, parce que moi, je rentrais dans ma petite maison. Et je fais exprès dans le livre de le dire. J'ai une petite maison sympa avec une piscine. J'ai ma petite réalité occidentale, quoi. Je vis bien. Je suis payé correctement. Et puis soudain, je me retrouve face à des gens qui n'ont rien.
D'ailleurs, tu es assez critique sur les
expats, hein.
Les expatriés.
Ouais, ça c'est un peu facile. C'est pas la partie que je préfère de mon livre parce que finalement c'est un peu facile. C'est assez juste. Mais en même temps, c'est une petite scénette au début de mon livre où je me moque un peu d'un dîner et ce dîner a existé. effectivement, je suis face à des gens qui sont plein de bonnes intentions, mais que je trouve assez caricaturaux dans leur manière de parler des Africains. C'est des choses qu'on retrouve. Et puis en plus, avec cette prétention française qui n'est pas à l'heure, qui existe. J'ai vécu aussi au Venezuela, ils sont pareils. Les Français entre eux, ils sont infernaux, et ils sont insupportables, mais ce ne sont pas que les Français entre eux, ce sont les gens entre eux, en fait. Ouais. Dès que vous trouvez des Espagnols entre eux, ils sont insupportables. En voyage, moi, je voyage beaucoup. Dès que j'entends des gens, des groupes, je les fuis. À Paris, je les fuis. J'habite Montmartre. Dès que j'entends un groupe de Coréens, de Nord-Coréens, de Sud-Coréens, pardon. Mais je les fuis. Je peux pas aimer comme ça les gens en troupeau tout le temps. Essayez de vous démarquer.
T'as une analyse aussi, là-bas, au Mali.
Pas toujours le choix.
Tu parles aussi des, entre guillemets, t'es assez critique par rapport, à une certaine intelligentsia, malienne.
Ouais.
Des gens qui sont entre guillemets écrits par François Xavier, des bourgeois maliens, ce qui m'a beaucoup amusé.
Et puis
parler aussi des jeunes issus de l'immigration française, qui arrivent là-bas, ils sont
en terrain
riches,
conquis. Voilà. Ouais. Alors ça, c'est un peu le truc. Alors c'est vrai que dans mon livre, j'ai essayé de c'est une portraitisation de ce Mali à l'intérieur, à l'extérieur. Donc
il y a beaucoup
de monde, tout le monde en prend pour son.
Et d'interviews très intéressantes.
Hein. Voilà, tout le monde prend pour son grade, même moi, je fais exprès de me moquer de moi. Quand je me montre dans cette grande maison avec une piscine, je me moque volontairement de moi. Ouais. Voilà, je suis dans une scène où j'ai juste l'air d'un type à côté de la plaque, à côté de la réalité. Et c'est bien de le voir, et c'est bien de le savoir. J'en ai pas honte d'ailleurs, mais c'est comme ça. Donc je me moque un peu de tout le monde, y compris de moi. Et effectivement, à un moment, il y a une petite scène où il y a une jeune franco-malienne qui a grandi à Paris, dans un milieu quand même assez privilégié. Ses parents travaille dans l'import-export, elle a eu tout ce qu'elle voulait dans la vie, c'est une bourgeoise française, elle a fait des belles études, elle fait des études sur le Mali, c'est bien, elle a une conscience de ses origines, et ça, je trouve ça très bien, sauf que quand elle arrive au Mali, elle se comporte très mal, elle se comporte comme une petite parisienne en province quand elle descend l'été, c'est exactement pareil, c'est...
Avec presque un espèce de racisme condescendant, on n'est pas
loin. Condescendance, pas racisme, une condescendance, une prétention. Et puis finalement un mépris en fait. Et ce qui est très étonnant, c'est que cette petite franco-malienne dont je parle, bizarrement, elle est d'extrême gauche. Elle se dit mélanchoniste. Ça m'a fait beaucoup rire. Et elle est pleine de beaux idéaux, mais quand elle est sur place, elle se comporte comme une bourgeoise, la pire des bourgeoises d'ailleurs, parce que elle ne voit pas la réalité des gens. Donc je raconte une scénette dans une maison où elle prend de haut une dame qui s'occupe du ménage. Elle n'a pas de pudeur sur sa vie de bourgeoise face à des gens qui vivent dans la misère. Ça, c'est la pire des choses.
Alors, on va essayer de parler du cœur du bouquin. D'abord, moi, j'ai envie de dire, en plus des interviews, en plus des rencontres, il y a énormément de rencontres dans ce bouquin. Il y a beaucoup de paysages, il y a beaucoup d'ambiances qui sont... Voilà, moi, j'ai autant voyagé avec tout ce que tu écris sur ce que tu vois. Et là, on voit le travail du journaliste, on voit aussi le travail du photographe. Photographe, il voit les choses d'une autre manière. Et c'est très, très chouette. Beaucoup de choses intéressantes. Mais il y a le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est, si j'ai bien appris ma leçon, parce que je suis pas forcément bon, c'est le début des années 60 avec la création du Mali.
Ouais.
Et ça y est, se pose déjà le problème des Touaregs.
Ouais.
Cette communauté qui vit plutôt au nord du Mali, ouais, à la limite du Mali, et là tout va aller de plus en plus mal parce qu'ils ont décidé de ne pas adhérer.
Bah alors le problème, il est que le Mali, comme beaucoup de pays de la sous-région, a été créé de toutes pièces aux indépendances. Ouais. On dit même il a été tracé aux équerres. Mais c'est sûr. Hein, vous regardez la carte du Mali, c'est deux équerres l'une en face de l'autre. Des peuples, il y en a beaucoup, des ethnies là-bas qui n'ont rien à voir, mais vraiment rien à voir. Quand on parle des Tamashèques, c'est les Touaregs. C'est une culture berbère, une culture du Sahara, une culture de
voilà, nomades.
Des caravanes. Ouais. Ce sont des nomades, ce sont des gens alors plutôt blancs de peau, avec un islam particulier aussi, plus venu du Maghreb, etc. Et en même temps avec une vision de la femme qui est pas du tout la même qu'au sud. Au sud, on se retrouve avec une culture alors disparate aussi, beaucoup d'ethnies, mais très fortement influencée par la culture mandingue. D'ailleurs, la musique qu'on entendait tout à l'heure, c'est plutôt la culture mandingue, la kora. Tout ça, ce sont des instruments de cette culture-là, qui est une très très belle culture. Moi, je suis d'ailleurs plus proche de la culture mandingue que de la culture du Nord, parce que je suis plus sensible à cette musique-là déjà. Moi, je voyage beaucoup avec la musique, et ce sont des peuples qui ont vraiment rien à voir et qu'on a obligé un petit peu à vivre ensemble, avec en plus cette délicatesse que, qu'on le dise, c'est difficile de vivre ensemble aussi parce qu'on n'a pas la même couleur de peau, parce qu'on n'a pas la même culture. Et que ces gens, ne s'apprécient qu'à moitié. Alors, pendant longtemps, ils ont cohabité. Il y a eu une volonté d'éradication de cette culture touareg de la part des autorités centrales, à l'époque d'ailleurs de Modibo Keïta, qui était le premier président socialiste, un homme qui était très unitaire, qui voulait quelque chose... qui se comprend d'ailleurs, il voulait faire de son pays un état-nation, très influencé par le système français.
Absolument.
Et il a voulu comme ça un petit peu éliminer les différences, et il s'y est pris de manière un peu brutale. Il y a eu quand même des bains de sang dans le Nord qui ont laissé des traces très profondes, des crispations, et donc depuis, on a eu du mal à rassembler les morceaux, à recoller les morceaux du puzzle, et aujourd'hui, on en paye les pots cassés, et ces peuples sont difficilement on peut difficilement les obliger à cohabiter. C'est tout ce qu'on essaye à travers les derniers accords de paix qui ont été signés, mais c'est très long, très lent, et c'est pas gagné.
Ouais. Dans le livre aussi, dans ton livre, on voit vite apparaître justement l'organisation de la rébellion des Touaregs au nord du pays. Et puis parallèlement, concomitamment, on est dans cette zone du Sud-Sahara où il y a d'autres choses qui se passent. Au niveau algérien, on est plutôt avec la naissance d'Al-Qaïda. Mmh, mmh. Ces groupes, d'ailleurs, ne sont pas ensemble.
Non,
ils sont plutôt d'idéologies différentes. Mmh. Et tu vas même, toi, dans ton bouquin et donc dans ta vie, tu vas prendre le risque d'aller rencontrer le chef de la rébellion Touareg.
Ouais.
C'était un sacré pari, ce machin.
Ouais, c'était marrant. Ouais. C'était marrant. C'était une aventure. Là, on rejoint ce que je disais au début de l'émission. C'était un peu vaincre mes peurs.
Je te cite. « Je ressemble à un héros de roman. D'ailleurs, n'est-ce pas le seul but de mon entreprise, exister, vivre une expérience pas banal, c'est l'aventure qui m'a amené ici. Ici, c'est près de Kidal pour voir le responsable de la rébellion Touareg. Beaucoup plus que le sort des Touaregs ou l'avenir de l'Azawa, et ils le savent. »
Mais bien sûr. Mais tout le monde le sait. Je veux dire, de toute façon, ce qui motive un journaliste grand reporter à prendre des risques, je pense que c'est ça. Il faut arrêter de se mentir. Les gens qui vous racontent que c'est pour défendre une cause, c'est du mensonge absolu. Et d'ailleurs, j'aime pas ces journalistes-là. Je trouve que c'est se cacher derrière une morale que moi je ne supporte pas, en fait. Les bonnes causes, les gens qui défendent soi-disant les bonnes causes, attention, j'ai des idéaux et j'ai des principes. Je suis pas un neuneu, je pars pas n'importe où sans réfléchir à ce que je fais. Mais je veux dire, ce qui motive souvent quand même, c'est effectivement une part d'envie de se perdre aussi, une part d'envie de se perdre, de se trouver,
voilà, prendre des risques pour rencontrer aussi.
Oui, c'est pas que prendre des risques, c'est aller voir ailleurs, aller voir de l'autre côté du fleuve, aller voir de l'autre côté de la mer. Je rejoins encore Jacques Brel, voilà, faut aller voir les choses, faut pas dire depuis Paris, moi j'ai tout compris. Ah, moi je sais ce qui se passe au Mali, ça c'est ce que vous entendez. Ah oui, les méchants Touareg. On entend tout le temps ça dans les rédactions. Moi non, je sais pas qui sont ces gens-là. J'ai pas de passion pour les hommes bleus. Moi je suis pas quelqu'un qui en rêvait.
Pour le coup, c'est bien le journaliste indépendant qui parle, puisque Là aussi, on le sent bien dans tes écrits. Quand tu fais un reportage, c'est évidemment le journaliste qui fait le reportage, mais c'est d'abord François-Xavier. Mmh. Et ça, ça veut dire que tu prends aussi le risque que les reportages que tu montes ne plaisent pas forcément à tes rédactions.
Ouais.
Et notamment cette interview de ce chef de la rébellion, il n'a pas été...
très bien vu. Alors ça, c'est important.
Il y a l'idée de la censure quand même derrière.
Ouais. Hein. Et là, c'est important parce qu'on touche un truc important du livre. D'abord, il s'appelait Agbanga, le rebelle.
Ouais,
c'était une espèce de Massoud, colonel Massoud, commandant Massoud, pardon, l'Afghan, là, vous savez, qui défendait un islam moderne, etc.
Formé par les armées de Kadhafi, si j'ai bien retenu.
Pour Agbanga, oui, ouais. Le Malien, ouais, le Touareg. Et donc c'était un homme. Moi, je suis allé le voir donc dans son fief. Ils sont venus me chercher. C'est toute une épopée. Je raconte ça dans le livre. On me voit le visage pour pas que je voie la route. Puis on me fait regarder la route. Enfin bref. Et j'arrive. Il se fait attendre et tout. Et je vois cet homme, 1m90, une masse, un type immense, costaud, bel homme, une vraie force de la nature. Belle main, beau regard qui me parle, boum, et qui m'accepte en interview, etc. Donc voilà, je voyais l'ennemi de Bamako en face de moi, et je voyais un homme avant tout. Je voyais un homme qui avait ses principes, qui avait sa vie, qui avait son existence, etc. Et j'ai compris à travers l'interview de cet homme que lui, ce qu'il voulait, c'était l'indépendance de son pays pour pouvoir justement stopper les différents trafics qu'il y a dans la région. Ça peut paraître naïf de le croire, mais moi je le croyais à ce moment-là, et je le crois encore. C'est-à-dire que pour lui, le pays Touareg, si on peut l'appeler comme ça, c'était une région avec des principes.
À pacifier.
À pacifier et avec des principes. Ouais. C'est-à-dire que lui, il voulait pas ça. Il voulait que justement, il pensait que ça, Al-Qaïda en plus en profitait déjà, il savait que ça allait noircir sa culture, que ça allait complètement déformer son pays. Donc lui, il voulait pacifier cette région-là. Je parle comme ça, je sais que je serai très critiqué par les Maliens du Sud, parce que je suis d'accord avec eux, il y avait peut-être d'autres moyens que prendre des armes pour essayer d'obtenir quelque chose, et qu'en plus, c'est compliqué, parce que le pays Touareg, quoi qu'on dise, il n'y a pas que des Touaregs là-bas. Il y a énormément de gens qui viennent du Sud aussi, donc c'est un méli-mélo de sang, d'ethnie, qui fait qu'aujourd'hui, on peut plus vraiment parler de pays Touareg, hein, ou de zone Touareg. Donc pour revenir un petit peu à ce que tu disais, il y a eu cette envie d'aller voir ce personnage un petit peu à l'époque, très très mal vu, mais qui je crois aurait peut-être pu changer quelque chose si on lui avait tendu le micro, si on avait accepté de parler avec lui. Et effectivement, quand je suis rentré, j'en disais trop en fait. Dans mon reportage, c'est à France 24, ça n'a pas plu, enfin ça a plu au premier chef, et puis ensuite c'est remonté. Je pense qu'il y a eu des discussions qui m'ont dépassé.
De rédaction,
voire diplomatique, hein, attention, parce qu'un sujet de 20 minutes qui sort sur une grande chaîne de télévision qui est vue en Afrique, ça peut faire du mal. Et on n'avait pas envie de voir ça à Bamako. On est en 2007, hein, je le répète. On n'avait pas, ou 2007-2008, on n'avait pas envie de voir ça à Bamako. Je sais pas jusqu'où c'est remonté. Ce qui est sûr, c'est que mon sujet a été complètement plié. Alors qu'il avait 20 minutes, qu'on avait déjà envoyé puis tout était fait. On en parlait là. On m'a dit, écoute, ton sujet va passer plus tard. Et puis finalement, au bout de 3 mois, il était toujours pas diffusé. Et puis à la fin, il s'est retrouvé en 5 minutes. Et on avait enlevé les 3/4. Bon, voilà. Moi, je sais pas si c'est de la censure. En tout cas, ça ressemble.
Alors, je suis désolé parce que le temps passe très vite et que malheureusement, on arrive un peu au bout de cette interview. Alors, je sais pas comment. Résumé pour les auditeurs. Peut-être d'abord dire que le livre, c'est ce que vous venez d'entendre. C'est-à-dire qu'il y a un ton dans l'ouvrage de François-Xavier qui est le sien. Et moi, c'est ce qui m'a le plus séduit. C'est que on est vraiment avec lui. On est presque la caméra de François-Xavier.
Et oui, et je trouve que ce que je veux dire qui est très important, c'est que ce livre, c'est pas seulement parler de la guerre, c'est pas seulement
Absolument.
Parler du djihad, et c'est pour ça ce titre Mali au-delà du djihad, c'est pour moi, en tous les cas, rendre hommage au Mali. Voilà, parce que moi j'aime sincèrement le Mali, j'aime beaucoup le Sud.
Ça se sent.
Quand je dis que j'aime la culture mandingue, je la connais plutôt bien. Je vais beaucoup dans les monts mandingues. J'ai toujours été attiré par cette musique, je le disais, mais aussi toute cette culture des fétichistes, des griots surtout. Là,
tu parles de tout ça dans ton livre. Hein.
J'en parle dans tout. Ouais.
Pour
moi, c'est important
culture,
que
des paysages, la nourriture.
Je
me souviens de
ces Maliens que j'ai rencontrés dans les avions. J'en raconte une scène à un moment dans un avion. C'est typiquement malien. Cet homme hyper humble. Ce sont des gens extrêmement humbles, les Maliens. C'est pour moi la plus belle des qualités humaines. Et ils l'ont. Donc on a beaucoup de choses à apprendre d'eux. Et je me souviens de cet homme qui est toujours dans cette espèce d'humilité malienne. Et moi, je me disais, mais waouh, lui, il vient d'un grand pays et il n'ose pas le dire, mais il est beau son pays. Et moi, le Mali, enfin, mon livre, c'est ça aussi, c'est leur dire, votre pays, il est beau, quoi.
Soyez alors, sûr. Merci François-Xavier d'être venu jusqu'au studio de RGB. Ce livre Mali au-delà du djihad, il vient de sortir, donc vous pouvez le trouver chez votre libraire, paru aux éditions Anna Mozart. Vous dire que si vous voulez comprendre beaucoup de choses sur l'histoire de ce pays, c'est vraiment un ouvrage de référence. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous, et surtout qu'il ne pense pas que je prends parti pour la cause Touareg. Non, non, c'est un livre beaucoup plus humble que ça, modeste. Voilà, j'essaie seulement de comprendre et de faire en sorte que les gens se comprennent aussi. C'est peut-être un peu là notre métier aussi.
Merci, bonsoir.
Merci à vous.